Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Jean-Pierre Maugendre est notre invité.
Bonjour Benoît Mancheron, bonjour à tous.
Jean-Pierre Maugendre, vous êtes l'auteur d'un ouvrage considérable intitulé « Quand la mer se retire ».
Considérable par la taille en tout cas, oui.
Et considérable par les éléments qu'il traite, à savoir une sorte de panorama du XXe siècle.
Voilà, en fait, c'était alors, du XXe siècle. C'est la reprise
de la fin du XXe siècle.
Voilà, d'un certain nombre de chroniques que j'ai regroupées dans une trame chronologique et qui, en fait, correspondent à la vie de l'Église et à la vie de la France depuis, globalement, l'élection du cardinal Ratzinger, donc du pape Benoît XVI, au souverain pontificat, jusqu'à son décès, ce qui englobe donc également une bonne partie du pontificat du pape François. Voilà, 20 années, un petit peu, de rétrospective, d'analyse de la vie de l'Église et de la vie de la France.
Alors, vous dirigez, d'une certaine manière, une collection chez Via Romana.
Non, je ne dirige pas, c'est vous qui dirigez, moi je commets.
Vous commettez beaucoup, puisque vous prévoyez de recommettre deux prochains livres, alors même que vous venez d'en faire paraître deux.
Voilà, donc je suis sur deux ouvrages, donc je rappelle pour nos auditeurs...
Donc une collection de petits livres.
Voilà, une collection de petits livres.
Qui se termine toujours par le mot « en question ».
Voilà, l'idée, c'est d'arriver à faire un petit point sur un sujet, puisque c'est une centaine de pages, sur un petit format. C'est lu entre 1h30 et 2h, hein, je crois, pour quelqu'un qui lit normalement.
Je montre, d'ailleurs.
Et donc, voilà. Faire le point sur des sujets qui nous paraissent des sujets d'actualité. Donc, aujourd'hui, on a déjà traité deux sujets. Un sujet sur l'obéissance en question, puisque qu'en fait, c'est un petit peu la caractéristique de la collection. C'est le sujet que l'on veut aborder en question, donc l'obéissance en question, paru l'année dernière. Également, la lecture en question. Et je suis aujourd'hui en train de travailler sur deux sujets. Donc, un qui est très avancé, l'autre qui l'est moins. Le sujet qui est très avancé, c'est la nouvelle droite en question, puisque ça reste un sujet d'actualité. Voilà, il y a eu un article du Monde la semaine dernière sur le combat culturel, etc., qui reprenait tout ça. Donc, c'est un sujet qui reste d'actualité. Et puis, également, mais plus à moyen terme, voilà, je souhaiterais revenir sur la royauté du Christ en question. Il est paru à l'occasion du centenaire de l'encyclique Quas Primas de Pie XI en décembre 1925, beaucoup de documents sur le sujet l'année dernière, mais je crois que, voilà, une petite synthèse en 1h30 ne pourrait pas faire de mal.
Alors, vous écrivez sur la lecture, c'est donc que vous êtes lecteur ou que vous vous intéressez à la lecture?
Alors, j'écris sur la lecture, oui, ça paraît non pas paradoxal.
Êtes-vous comme Montesquieu ?
Pardon ?
Qui disait « Je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé ».
Voilà, c'est la première ligne, l'incipit, comme on dit, de cet ouvrage, voilà. Alors, c'est un
La lecture est à la fois un exutoire et une sorte de catharsis pour vous ?
Ah là là, je crois qu'elle est plus que ça. Si je devais retenir deux axes majeurs, je dirais le premier, c'est que la lecture, c'est un cumul d'expériences. Voilà, je fais la citation du général Matisse, donc le général Matisse qui fut commandant des troupes américaines en Afghanistan, donc quelqu'un qui a eu des responsabilités importantes. Il fut également un des secrétaires d'État du président Trump lors de son premier mandat, puisque le président Trump faisait une grosse consommation de secrétaire d'État à la Défense, donc lui, ça a été un des cas. Et il disait, je trouve ça très profond et très riche, il dit « Je n'ai jamais été confronté à une situation qui n'ait déjà été vécue par d'autres avant moi, et en m'inspirant de leur expérience, ça ne me donne pas la solution immédiate, mais ça augmente la probabilité que je prenne de bonnes décisions dans la mesure où les mêmes causes engendrent les mêmes effets. Voilà. Donc là, je crois d'abord un premier point pour la lecture, c'est quand même la mise à disposition du lecteur de l'expérience du patrimoine mondial de l'humanité. Alors, mondial de l'humanité sous deux aspects. D'abord, sous un aspect géographique, c'est l'ensemble des réflexions qu'ont pu avoir les uns et les autres sur tel ou tel sujet alors qu'ils ne se connaissaient pas. Donc c'est un aspect géographique, mais c'est également un aspect chronologique. Voilà, confronté à telle difficulté. Voilà, j'ai lu avec un immense intérêt, par exemple, il y a une quinzaine de jours, un article de Michel de Gégère dans Le Figaro sur Thucydide au Groenland. Voilà. Et en fait, il faisait un parallèle entre la ligue qui avait la ligue de Délos qui avait été constituée par Athènes après les guerres médiques autour d'elle et qui assurait une certaine forme d'hégémonie d'Athènes sur l'ensemble des cités grecques qui s'étaient opposées aux Perses. Et donc dans cet article vraiment extrêmement éclairant, Michel de Gégère faisait un parallèle entre Athènes, la ligue de Délos, et puis l'OTAN, les États-Unis, et un de ces éléments, c'était de dire, voilà, il y a quand même un moment où Athènes est allée trop loin dans les exigences qu'elle avait vis-à-vis des cités qui lui étaient alliées, et ce pont trop loin, si je reprends une expression en faisant référence à un film bien connu, eh bien, a valu le sursaut contre elle d'autres cités athéniennes, en particulier autour de Sparte et dans une guerre qu'Athènes a fini par perdre. Et donc, je trouve ça très intéressant. Et la question que posait Michel de Gégère, c'était de savoir si ce pont trop loin, c'était pas les prétentions des États-Unis sur le Groenland. Voilà. Et donc, on est dans des situations analogues. C'est jamais exactement les mêmes situations, mais ça nous livre des éléments de réflexion. Voilà, je crois que c'est
alors
le premier
là, vous
point.
Nous parlez de géopolitique, mais La lecture est elle-même une géopolitique.
Voilà.
Finalement.
Et donc, voilà.
Et elle connaît des crises à la lumière de la géopolitique actuelle.
Alors, elle connaît la lecture en crise, c'est le fait que les gens lisent moins. Alors, pourquoi est-ce qu'ils lisent moins? Ils lisent moins d'abord.
Ce serait intéressant de savoir d'ailleurs où on lit le plus sur cette terre.
Où on lit le plus sur cette terre.
Et je crois avoir la réponse d'ailleurs.
Eh bien.
À savoir dans les pays asiatiques.
C'est possible, je sais pas. Alors,
D'après mes renseignements, c'est en Corée.
Voilà,
et au
alors
Japon.
Un des éléments, oui. Et à mon avis, c'est le premier obstacle à la lecture, c'est que la capacité de lecture d'une population est liée à son système éducatif. Oui. C'est-à-dire que quand, à 12 ans ou à 14 ans, quand se prennent les habitudes, etc., l'ensemble de la population est à l'aise avec la lecture, on peut créer des habitudes.
Bien sûr.
Quand de l'ordre, à mon avis, j'ai en tête peut-être 20 ou 25% de la population, comme c'est le cas en France, dans l'entrée en sixième, ne maîtrise pas la lecture, il est bien évident que ça va se voir et que le manque d'aisance à la lecture fera que par nature, les gens liront moins.
Alors vous citez le Centre National du Livre.
Eh oui.
Dans un sondage paru en avril 2025 qui nous indique que 45% des Français déclarent lire quotidiennement, que ce soit au format papier ou au format numérique, soit un recul de 4 points en un an. Avec en plus une majorité de femmes qui lisent.
Voilà, les femmes lisent plus que les hommes.
Oui.
Alors le chiffre que l'on peut retenir aussi dans cette même étude, c'est qu'en fait les Français, d'une manière générale, consacre à la lecture, globalement 3h30 par semaine, qui est le temps qu'ils consacrent aux réseaux sociaux et à leurs écrans par jour. Voilà, on est sur un ratio de indépendamment de l'activité professionnelle. Bien sûr, parce qu'il y a des gens dont le métier, c'est d'être sur des écrans toute la journée, mais ça n'est pas pris en compte. C'est en dehors des obligations professionnelles.
Alors vous écrivez, à l'heure d'Internet, de l'intelligence artificielle et des moteurs de recherche, la lecture en particulier, celle d'un livre en format papier, a-t-elle encore un sens?
Alors oui, deux, trois réflexions. La première réflexion...
Vous citez Peggy.
Voilà, c'est que... Voilà, c'est la citation de Peggy...
Enseigner à lire. Enseigner à lire, telle serait la seule et la véritable fin d'un enseignement, bien entendu, que le lecteur sache lire et tout est sauvé.
Exactement. Alors, autour de cette lecture, trois réflexions. La première, c'est que l'expérience montre, et d'ailleurs, il en était beaucoup question, il y a 15 ou 20 ans, etc., c'était le livre numérique. Voilà. Bon. Aujourd'hui, on est bien obligé de constater que le livre numérique n'a pas eu la percée qui lui était annoncée il y a 15 ou 20 ans. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Il est difficile d'avoir une lecture suivie de textes un peu longs sur un support qui n'est pas un support papier. Voilà. Lire un article d'une page, ça va très bien sur une tablette, sur un PC, très bien. Pour un texte qui fait 3, 4, 10 pages et a fortiori un livre, l'expérience montre que c'est un texte plus long, c'est compliqué si on n'a pas un support papier. Premier point. Deuxième point, je crois aussi que... alors c'est Voltaire, qui nous dit « Celui qui ne lit pas un crayon à la main dort ». Voilà. Oui. L'avantage du livre, et avec son support papier...
Oui.
C'est de prendre des notes, qui sont des notes facilement utilisables, qui permet également de distinguer ce qui est important de ce qui l'est moins. Je crois, voilà, ce sont deux éléments qui militent en faveur du livre papier, avec aussi le fait que, en particulier pour des ouvrages un peu plus anciens, tout n'est pas numérisé. C'est-à-dire que les livres aujourd'hui qui sortent pour un certain nombre d'entre eux existent sur un format numérique. Ça n'est pas le cas d'une grande partie de la production intellectuelle antérieure.
Alors, la lecture et le livre sont utiles à soi-même et au prochain, dites-vous. Et vous vous appuyez sur une citation de Saint Bernard. Il y en a qui étudient par pure curiosité de savoir, d'autres par vanité, d'autres pour se faire de la science un moyen de fortune, et tout cela est mal. Il en est d'autres qui étudient pour se rendre utile aux autres ou pour se sanctifier eux-mêmes, et tout cela est bien. Ce double mouvement.
Alors,
Lecture qui concerne évidemment...
Je ne vais pas paraphraser Saint-Bernard, mais je crois qu'on peut dire deux choses. La première, notre intelligence, elle est faite pour découvrir la vérité. Voilà. Notre intelligence est faite pour découvrir la vérité, comme la fleur, comme le tournesol.
Car la vérité libère.
Se tourner vers le soleil. Et donc, dans la recherche que chacun d'entre nous doit faire de la vérité, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, nous devons pouvoir bénéficier des réflexions de ceux qui nous ont précédés dans cette quête de la vérité. C'est le premier point. Et puis le deuxième point qu'évoque Saint Bernard, voilà, c'est un principe bien connu de philosophie à l'école de Saint Thomas d'Aquin. Voilà, le bien est diffusif de lui-même. C'est-à-dire que cette vérité que j'ai découverte, que j'ai appréhendée, eh bien, il est de sa nature que celui qui l'a découverte cherche à la faire partager. Et cette vérité que j'ai découverte, alors je peux la faire partager, je dirais globalement, de deux manières. Soit, et c'est le cas dans les sociétés traditionnelles, par le discours, par l'oral, c'est les enseignements oraux, essentiellement, de Platon.
Ex auditu, comme on dit.
Voilà. De Platon, de Socrate, d'Aristote, qui d'abord et avant tout étaient des gens qui parlaient bien, dans des civilisations qui sont des civilisations orales. Bien. Aujourd'hui, depuis ce que l'on a appelé la révolution Gutenberg, donc au moment de la Renaissance, voilà, il est apparu un autre mode de transmission privilégié et accessible à tous. Parce que bien sûr, il existait des documents écrits dans les civilisations anciennes. On peut penser au papyrus en Égypte. Mais c'était d'un coût tel et d'une fragilité telle que ça n'était pas utilisable par tout le monde. Bon, ce que l'on a appelé la galaxie Gutenberg, eh bien, rend la connaissance accessible à tous. Et à mon avis, c'est un des bienfaits du livre, c'est de pouvoir partager ces vérités, ces expériences que l'on a soi-même découvertes et éprouvées.
Et vous parlez aussi d'une intégration à la culture.
Alors, oui, avec deux aspects. Cette intégration à la culture, c'est savoir mieux appréhender de quelle culture nous sommes les héritiers. Alors, il y a une culture qui se transmet de manière immatérielle. Ce sont les us et coutumes dans lesquels nous vivons, que nous ont transmis, que nous transmet notre famille. Et puis également, cette culture, eh bien, c'est aussi un patrimoine matériel. Ce patrimoine matériel, ce sont nos paysages, nos cathédrales, nos châteaux, un aménagement également de la nature. Voilà, les merveilles, voilà, ça n'est pas ma région d'origine, mais c'est un pays dans lequel l'homme a vraiment aménagé la nature de manière tout à fait heureuse. C'est la Provence, voilà, la Provence, la Provence que nous admirons.
La Provence, oui.
Ça n'est pas
et la France en général est un jardin.
Voilà.
Est un vrai jardin.
Voilà. La France est un vrai jardin. Oui. C'est-à-dire que partout où nous admirons ces vignes, bon, il y a la main de l'homme. Bon, et donc ça, c'est effectivement.
Renvoie constamment, effectivement, à la maille de la chaîne qui nous relie.
Exactement. Voilà. Donc là, c'est un patrimoine matériel, et puis également...
Et il y a le patrimoine immatériel,
voilà,
à savoir ce que Michel de Gégère appelle le colloque avec
Le colloque avec les morts, ce sont ceux qui nous ont précédés. Alors, ce sont des œuvres à la fois matérielles et immatérielles, parce que ce sont des œuvres de l'esprit, c'est de la littérature, ce sont des poèmes, mais ces œuvres de l'esprit, elles s'incarnent aussi dans des textes écrits.
Oui. L'identité du peuple juif repose sur sa fidélité à l'alliance conclue avec Dieu sur le mont Sinaï et transmise par la Bible, to biblion, le livre en grec. L'Iliade et l'Odyssée constituent le récit par excellence, constitutif de l'identité hellénique antique. Il fut un temps où les fables de La Fontaine jouaient ce rôle en France, comme la Divine Comédie en Italie ou le théâtre de Shakespeare en Grande-Bretagne. S'approprier cet héritage, écrivez-vous, par la lecture, c'est aussi participer à la défense de la civilisation française, européenne et chrétienne. On pourrait arrêter l'émission.
On va peut-être continuer.
Non, mais j'aime les grands exemples que vous donnez sur ces archétypes, finalement, des différentes civilisations européennes. Et d'ailleurs, ça pourrait même être considéré comme valable pour les autres civilisations. Quand on pense à l'épopée de Gilgamesh,
oui.
On pense aux grands écrits chinois, enfin traditionnels, on peut dire que toute vraie civilisation, toute vraie culture repose effectivement sur l'émergence
sur une tradition orale pour un certain nombre, écrite pour d'autres. Je crois qu'il faut avoir en tête vraiment, la formule est un peu banale, mais elle est très vraie. La génération spontanée, aussi bien dans le domaine matériel et physiologique que dans le domaine intellectuel, ça n'existe pas. Voilà. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous pensons aujourd'hui, eh bien, c'est parce que nous sommes les héritiers. Alors, les héritiers fidèles pour certains, les héritiers infidèles pour d'autres. Mais même quand je suis un héritier infidèle, je me positionne par rapport à ce que j'ai reçu et que d'une certaine manière, je peux refuser.
Alors, aller, c'est aussi aller à la découverte d'autres mondes, et vous dire, là, c'est le côté un peu jubilatoire de la lecture, découverte,
oui.
La lecture qui nous permet d'aller à la rencontre d'autres civilisations et à d'autres quotidiens que le nôtre.
Alors aujourd'hui, voilà. Certainement bien plus que par le passé, on peut découvrir d'autres oui. civilisations en allant directement oui. les rencontrer. Voilà, oui. Vous partez, passez 15 jours au Mexique, voilà. 15 jours au Japon.
Et par le cinéma, par le
voilà, et
par
le cinéma aussi, voilà. Vous découvrez oui. D'autres mondes. Mais pendant longtemps, vous parlez du cinéma, voilà, jusqu'il y a un siècle, le seul moyen de découvrir d'autres mondes, c'était de lire. Alors vous lisiez les récits de Marco Polo, vous lisiez les récits des missionnaires au Japon ou en Afrique. Voilà, pendant longtemps, ça a été le seul moyen de découvrir d'autres mondes. Aujourd'hui, pour les deux raisons qu'on vient de donner, le cinéma, la télévision d'une part, et puis le déplacement physique d'autre part, oui. Ça n'est bien évidemment plus le cas.
Alors ce qui reste encore le cas, en dehors des autres grands arts, c'est L'exploration des méandres de l'âme humaine.
Ah voilà, alors on a fait un long...
Vous avez osé citer Zola d'ailleurs.
Un long paragraphe là-dessus, oui. Au-delà, la lecture, le
livre... On peut rester à ras des pâquerettes à ce niveau-là, ou aller beaucoup plus profondément
voilà,
alors, à la manière de Dostoïevski.
Au-delà des événements historiques, au-delà des études sociologiques, de ci ou de ça, je crois que la littérature, c'est aussi une ouverture, voilà, c'est l'expression que j'emploie, que vous avez reprise, c'est une fenêtre ouverte voilà, sur les méandres de l'âme humaine. Voilà, quand vous lisez le théâtre
Fèdre, par exemple,
de Corneille,
oui.
De Racine, oui. Ça nous permet de mieux comprendre, voilà, par exemple.
Vous donnez l'exemple de Phèdre, bon, qui nous apprend mille fois plus, écrivez-vous, sur le pouvoir dévastateur de la passion amoureuse que n'importe quel traité théorique sur les passions.
Voilà, alors vous pouvez voir aussi dans un autre domaine, c'est un autre péché capital, sur oui. L'avarice.
Oui.
Voilà, vous pouvez lire le Père Goriot, et comme ça vous verrez... les méfaits de l'avarice. Alors, sur cette question, ça n'est pas dans le livre, parce que j'enrichis mes réflexions au fil de mes lectures.
Voilà, l'avare.
L'avare, exactement. Oui. Mais l'avare, il y a un côté, je dirais, amusant,
oui.
Qu'on
un
retrouve
peu
pas
oui.
Dans le Père Goriot.
Non, bah, non, pas
là,
du tout.
Ça, c'est pas
non,
drôle
pas
du tout. Alors, j'ai trouvé, ça n'est pas dans le livre, mais
oui.
C'est une référence depuis là, une déclaration d'un dénommé Louis-Henri de La Rochefoucauld dans un livre paru l'an dernier qui s'appelle L'amour moderne, qui dit, je crois qu'il y a quelque chose de très vrai. Les bons livres agissent sur vous comme une opération de la cataracte. En vous offrant une vision plus nette du monde. C'est pas mal, ça.
Ah, ben oui, c'est très bien vu. Effectivement, on a l'impression que ça permet d'affiner l'acuité visuelle, enfin, l'acuité du cœur et de l'âme sur les choses.
Oui. Et donc, dans ce petit livre, on a consacré donc toute une partie, c'était pas évident au début, à l'aspect du roman.
Oui.
Parce qu'il faudrait pas non plus que l'on ait une vision un peu desséchée de l'étude, en disant voilà, rechercher la vérité, bon, tout ça c'est bien, mais et c'est nécessaire et ça en fait partie. Mais il y a également la lecture participe.
L'esprit de roman est l'esprit de complexité.
Voilà, ben parce que la nature humaine est complexe. Mais je crois que c'est aussi, alors ça rejoint un mot un peu barbare qui est employé dans le livre, c'est cette notion de trapélie. Voilà, le trapélie, E en grec, ça veut dire bien, qu'on retrouve dans Eugène, bien-né, qu'on retrouve dans euthanasie, c'est très à la mode, thanatos c'est la mort, euthanasie c'est la bonne mort, entre guillemets, en tout cas c'est le sens étymologique qui est donné.
Oui.
Et le trapélie, c'est la manière de se récréer de manière bonne, de manière saine. Voilà. Et je donne un petit exemple là, d'un dialogue avec un père de l'église. Voilà, l'arc ne doit pas être bandé tout le temps dans la recherche
oui.
Permanente. Constante de la vérité, etc. Ben, y a des moments où il faut laisser l'arc se reposer, et ça vaut également pour notre intelligence, pour nos facultés intellectuelles. Alors, elles ont le droit de se reposer en ne faisant rien, voilà, vous partez jouer aux croquettes avec vos enfants, vos petits-enfants, vous partez marcher, etc. Et puis, vous avez aussi une autre possibilité, eh bien, c'est d'avoir des lectures qui sont des lectures récréatives, qui nous permettent de découvrir d'autres mondes.
Vous avez d'ailleurs consacré un chapitre spécifique à la lecture des jeunes.
Voilà.
Apprendre à lire aux enfants.
Voilà.
Et ça vous semble absolument fondamental ?
Bien, il est nécessaire, voilà, les bonnes habitudes se prennent jeunes.
Et elles se prennent par mimétisme, c'est-à-dire que...
Et elles se prennent par mimétisme,
oui.
C'est-à-dire si...
Il faut que les parents lisent déjà
voilà.
À leurs enfants.
Si vous voyez vos parents lire,
oui.
Eh bien, ça fait partie de la vie quotidienne. Si vos parents ne lisent jamais, alors tant que vous habitez chez eux, après vous faites ce que vous voulez, etc., mais il y a des habitudes qui ont... Et parfois de mauvaises habitudes qui ont pu être prises... Et sous cet aspect, je me permets d'attirer l'attention, voilà, sur le piège des écrans, donc qui font partie de notre vie, qui sont nécessaires pour un certain nombre d'activités professionnelles, mais qui sont aussi un piège. Voilà, le conseil tout simple que je donne, c'est après le repas, après le dîner du soir, pas d'écran. Voilà, pas d'écran, ça veut dire pas de télévision, pas de tablette, pas de PC, pas de réseaux sociaux, pas de téléphone portable. Et puis, ben, pour consacrer cette soirée à l'échange avec les gens avec qui on vit, son conjoint, ses enfants, et puis à la lecture.
Cela dit, vous dites qu'en cas de difficulté pour l'enfant, vous êtes absolument opposé à ce qu'on les force à lire.
Oui.
Les forcer pourraient être contre-productifs, écrivez-vous. Il vaut sans doute mieux essayer une autre méthode, un autre genre littéraire, en fonction de l'âge. Une idée peut-être de lire à deux voix.
Voilà.
Le livre, l'enfant lit une page, l'adulte la suivante.
Voilà.
Et après, l'on discute.
Voilà. Et alors, en essayant aussi, alors je vois, puisque j'ai quand même un certain nombre de petits-enfants maintenant... il faut aussi essayer de trouver, mais ça fait partie de la responsabilité pédagogique des parents, des grands-parents aussi, qu'est-ce qui intéresse l'enfant ? Et dans ce qui intéresse l'enfant, ben, lui donner un livre qui correspond à ses centres d'intérêt, donc sur lequel il n'aura pas d'effort de volonté à faire sur l'intérêt du sujet, le sujet l'intéresse, et ben ensuite, essayer de cultiver ça, c'est-à-dire ayant pris de bonnes habitudes sur des lectures qui ne lui coûtent pas, parce que le sujet l'intéresse, eh bien peut-être petit à petit réussir à l'orienter sur des lectures qui lui coûteront peut-être un petit peu plus, dont il verra moins l'intérêt dans un premier temps, mais il aura pris de bonnes habitudes.
Vous conseillez d'ailleurs le Club des Cinq, les Martines, etc., en mettant un peu en garde les parents, parce que vous dites que les Martines rééditées aujourd'hui ne sont plus les Martines des années 70, et moi je dirais la Comtesse de Ségur, qui est complètement trafiquée aujourd'hui.
La Comtesse de Ségur, et puis ça vaut également pour... alors, quand j'étais petit, donc c'était il y a longtemps, malheureusement, voilà, on lisait la Bibliothèque Rose, la Bibliothèque Verte, bon, et là, il y avait, en particulier à la Bibliothèque Verte, un auteur, il s'appelait Enid Blyton, il y avait le Club des Cinq, le Clan des Sept, etc. Voilà.
Bah, donc, les fameux oui-oui, etc.
Voilà. Donc ça donnait des habitudes, alors oui, c'est pour les plus petits, mais là aussi, les six compagnons, alors c'est, voilà, les six compagnons de la Croix-Rousse, etc., là aussi, on a un affaiblissement et un avachissement de l'exigence, voilà, c'est-à-dire que les rééditions qui sont faites aujourd'hui, bah, y a un certain nombre de mots qui ont été changés, parce qu'on peut plus comprendre, alors, à la décharge des gens qui font ça, dans un certain nombre de cas, la justification est, parce qu'il y a toujours quelque chose de vrai, même dans les pires erreurs, c'est que dans un pays comme la France, dans les années 50-60, qui est cette période, 50-60-70, on est dans une société rurale.
Oui.
C'est-à-dire que les références à la ferme, les références à la campagne, sont très évocatrices pour la cible. C'est-à-dire que même si vous habitez dans une grande ville en province, ben, vous êtes proche de la campagne, au marché, voilà, vous voyez des canards, des poules, etc. Bon, aujourd'hui, c'est tout un univers qui est étranger à une bonne partie des enfants. Donc, que cela doive être pris en compte dans un certain nombre d'ajustements, de modifications, ça, c'est légitime. Ce qui l'est moins, c'est de vouloir faire, je dirais, des documents de ce type en n'utilisant que 200 mots sous prétexte que les enfants ne peuvent pas en comprendre de plus riche et de plus précis. Parce que s'il y a une multitude de mots dans la langue française, c'est de manière à pouvoir... prendre en compte la diversité de la réalité.
Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que vous évoquez les différents genres. Hein, vous parlez du genre théâtral et de la poésie, qui semble moins accessible que le genre romanesque, mais en réalité, il laisse une plus grande liberté à leur lecteur, car ceux-ci se retrouvent libérés d'un narrateur omnipotent qui distribue de son point de vue les bons et les mauvais points à ces personnages.
Alors c'est aussi, en particulier pour le roman, je pense c'est une supériorité sous cet aspect par rapport à l'image animée, c'est le pouvoir de l'imagination. C'est-à-dire que dans un roman, vous laissez de la place à l'imagination. Dans un film ou dans une image animée, il y a moins de place à l'imagination parce qu'elle est occupée par l'image.
Bien sûr. Et c'est vrai que dans une pièce de théâtre, on a tendance à pouvoir suivre, à être un lecteur-spectateur face au héros. Vous citez le cas d'Antigone, chez Jean Arnouille, et vous dites que sans narrateur entre lui et elle, pour l'aiguiller dans l'analyse et la perfection de ce personnage. On est directement plongé. Donc le genre poétique et le genre théâtral ne sont pas des genres à bannir aujourd'hui.
Non, non.
Ils sont même plus que jamais à redécouvrir.
Et puis il y a aussi, en particulier pour le genre théâtral, une forme de contact avec la réalité des personnes. Voilà. Oui. Les acteurs sont là, en chair, en os, et je pense que ça donne une autre dimension à la représentation.
Alors il y a aussi l'œuvre de fiction, et vous dites qu'elle permet un mouvement double et paradoxal. Elle descend le lecteur de lui-même tout en lui donnant des clés sur son propre fonctionnement. Vous diriez que ça va jusqu'à recouvrir le genre de la science-fiction ?
Alors, je ne suis pas très féru de science-fiction, et donc c'est un domaine...
Mais j'ai vu que vous ne l'abordiez pas.
Voilà, non, moi je ne suis pas du tout...
Non, vous n'avez pas lu les œuvres de Wells de...
Non. Non, non, non. Je dirais que j'ai
le rayon vert.
Suffisamment à faire avec la réalité. Je ne suis pas très orienté vers la science-fiction.
Oui, mais il se trouve que certains auteurs de science-fiction se sont avérés.
C'est vrai. Alors, si la science-fiction, ça l'est d'une certaine manière, j'ai lu ça, c'est Jules Verne.
Oui.
Voilà, Jules Verne, à son époque, c'est de la science-fiction.
Oui, oui, bien sûr. Alors, rappelons que notre invité d'aujourd'hui est donc Jean-Pierre Beaugendre pour son ouvrage « La lecture en question ». Et que Radio Courtoisie, évidemment, ne vit que grâce à ses auditeurs. Et j'invite donc chacun à participer à la vie de Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Alors, cher Jean-Pierre Beaugendre, nous retournons explorer votre petit livre, La lecture en question, donc publié chez Via Romana. Et vous écrivez que les idées s'inscrivent également dans les écrits.
Ben, je développe de...
Je pense à ce que vous dites, notamment, de la Renaissance.
Voilà.
Et de Paul Hasard.
Exactement. Vous avez une citation extraordinaire de son livre sur la crise de la conscience européenne. Voilà, la crise de la conscience européenne. Deux idées autour de ça. C'est que les idées mènent le monde. Voilà, ce que nous vivons aujourd'hui, la crise de civilisation que nous vivons, l'omniprésence du wokisme, de ce que Mathieu Bock-Côté appelle la société diversitaire, etc. Voilà, tout ça, ça ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire qu'en fait, se conjuguent deux éléments. Il y a un premier élément, c'est que cela doit être conceptualisé par un certain nombre de gens. Voilà, ce que nous vivons aujourd'hui, donc c'est la suite de Bourdieu. Dieu, repris aux États-Unis, revenu en France, etc. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui conceptualisent, donc un travail de réflexion. Et puis, il ne suffit pas qu'il y ait ce travail de réflexion, c'est-à-dire que ce travail de réflexion, s'il n'est pas diffusé, ça ne sert à rien. Et en fait, changer le courant dominant, c'est le début du livre dont on parle de Paul Hasard, voilà, dans lequel il dit, voilà, jusqu'ici les gens pensaient comme Bossuet, maintenant ils pensent comme Voltaire. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que passer pour l'ensemble d'une population de la croyance en ce que croyait Bossuet par rapport à ce que croyait Voltaire, ça nécessite deux choses. Ça nécessite des penseurs et ça nécessite des réseaux de diffusion. Bon, et le livre...
Il écrit l'homme et l'homme seul devient la mesure de toute chose. Il faut édifier une politique sans droit divin, une religion sans mystère, une morale sans dogme. Par la science, on conquerrait, à n'en pas douter, le bonheur.
Voilà. Et donc, on est dans le scientisme qui... sévit encore aujourd'hui. Voilà, c'est la vision, c'est l'opposition entre deux visions fondamentales. La vision entre guillemets que l'on peut appeler de gauche, mais je renvoie à ce que disait Maurice Druon à propos de la gauche et de la droite. Il disait, donc Maurice Druon de l'Académie française, l'homme qui a écrit la série des Rois maudits, et donc Maurice Druon donc écrivait et disait, oui. Il y a en France deux gauches dont une, par convenance, s'appelle la droite. Oui. Bien. Et en fait, qu'est-ce que cherchait à illustrer un petit peu cet auteur ?
Vous voulez dire qu'il y avait une pensée unique.
Voilà, cette pensée unique, elle repose sur quoi ? Elle repose sur une anthropologie, voilà. Aujourd'hui partagée par tout le monde, traditionnellement.
Sur un refus de Dieu, sur l'athéisme.
Alors, il y a le refus de Dieu, oui. Mais je crois qu'indépendamment de ces questions liées à l'existence de Dieu, oui. Il y a deux conceptions du monde et de l'homme. Il y a une conception qui consiste à dire que l'homme est naturellement bon et qu'il est indéfiniment perfectible par la science, par la démocratie et par le progrès. Voilà. Ça, c'est la vision de gauche. C'est l'homme est indéfiniment perfectible. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, c'est de la responsabilité des structures sociales. Et donc, en modifiant les structures sociales, on devrait parvenir à bâtir le paradis sur Terre.
Sachant qu'il n'y a ni loi naturelle, ni loi surnaturelle.
Il n'y a pas de loi naturelle, il n'y a pas de loi surnaturelle. Non. Et le drame de notre temps, oui. C'est que cette pensée de gauche... De LFI jusqu'à la majorité des membres et des élus du Rassemblement National, elle est partagée par ces gens-là. Oui. La vision traditionnelle que l'on pourrait considérer comme la vision classique de droite, oui. C'est de dire que l'homme est blessé. Et que cet homme blessé, pour assumer néanmoins sa finalité à la fois naturelle et surnaturelle, il a besoin de cadres. Ces cadres faisant en sorte qu'il lui sera plus facile de bien se comporter dans son intérêt à lui et dans l'intérêt de la société, plutôt que de faire des bêtises. Et donc là, on a vraiment deux conceptions totalement antagonistes de la nature humaine, deux anthropologies. Et ces deux anthropologies, donc la deuxième, c'est l'anthropologie traditionnelle, donc une société avec des cadres, avec une hiérarchie, avec des règles. Et puis la société moderne, dans laquelle il n'y a pas de règles, puisqu'elles peuvent évoluer en permanence. Et puis surtout, cette croyance dans le progrès continu, dans le fait que la science va changer notre vie et que ce sera mieux. On le voit aujourd'hui autour de tous les débats, autour de l'intelligence artificielle. Voilà, l'intelligence artificielle, et le transhumanisme. Oui. Bon, eh bien, ces idéologies du progrès en vogue depuis 4 ou 5 siècles, eh bien, aujourd'hui, on en vit une nouvelle étape. Voilà, je pense à. C'est une citation, je crois, c'est de Victor Hugo qui est complètement dans cette optique et dans laquelle il dit. Alors, ça rejoint Fukuyama, etc. Voilà, le 20e siècle sera heureux. Parce qu'avec les progrès de la science d'une part, les progrès de l'éducation d'autre part, eh bien, il n'y aura plus de pauvreté, il n'y aura plus de malheur, là. Ce sera le bonheur. Voilà. C'est une utopie, et en particulier en ce qui concerne l'organisation des sociétés, comme ça ne correspond pas à la réalité, c'est une utopie criminelle.
Vous savez ce que Saint-Pédis écrivait à ce propos ?
Alors, rappelez-le-moi.
Nous nous rangeons à l'avis de ceux qui voient dans l'ignorance des choses divines voilà. La principale cause de la régression actuelle, de la débilité des âmes et des maux très graves qui s'ensuivent.
Voilà, c'est dans Acerbonimis, dans mon souvenir.
Voilà.
Voilà.
1905.
Voilà. Et donc, ce drame de l'ignorance. Voilà. On ne peut pas orienter.
La religion du Dieu qui s'est fait homme devient la religion de l'homme qui se fait Dieu.
Est bien connue. et qui donc, voilà. Je dirais, choisit lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, on le voit aujourd'hui dans les débats sur l'euthanasie.
Oui.
Alors, en voyant sur ces débats sur l'euthanasie, il y a deux choses quand même
qui vous frappent.
Hallucinantes. Oui. La première chose, c'est la situation de notre pays étant ce qu'elle est, son endettement, sa désindustrialisation, sa dénatalité, et alors plus que sa dénatalité, sa dépopulation, oui, voilà, oui. Puisque c'est pas exactement la même chose. La crise agricole, bon, l'Assemblée nationale et le président de la République, le gouvernement, n'ont pas d'autre priorité que de faire un projet de loi sur l'euthanasie, qui en fait est ni plus ni moins que la possibilité d'éliminer et de tuer les personnes en situation de faiblesse à qui on n'accorde plus, on ne donne pas les moyens de s'attacher à la vie. Voilà, la situation de ce pays fait que c'est ça la priorité. Vraiment, déjà, ça c'est absolument terrifiant.
Oui.
Et puis le deuxième aspect terrifiant, mais dans la continuité de ce que l'on vient d'évoquer, voilà, l'homme, maître de son destin, maître de la vie, maître de la mort, maître du choix de son sexe, maître du choix de la couleur des yeux de ses enfants, etc. Voilà, c'est vraiment la tentation...
Il y a un côté prométhéen.
Prométhéen, bien sûr, et puis c'est la tentation...
On est en train de voler le feu. Voler à Dieu.
C'est la tentation satanique, c'est de prendre la place de Dieu, de décider qui doit vivre, qui ne doit pas vivre et selon quelle modalité.
Le problème, c'est qu'on ne prend pas la place de Dieu, mais qu'on ne peut que le singer.
Ah, on ne peut que le singer. Alors un exemple donné de qui est aussi un signe révélateur des temps, etc. C'est toutes les affaires Epstein, etc. C'est la corruption financière, la corruption morale des classes dirigeantes du monde occidental, quoi. Et on découvre aujourd'hui ce que tout le monde savait depuis des décennies, c'est les turpitudes de Jacques Lang.
Oui.
Tout le monde savait.
Je voudrais lire un mot reçu d'un auditeur, très intéressant, merci.
Eh bien c'est gentil, merci.
Je donne un exemple, notre fils aîné est devenu journaliste, car petit, il me voyait lire le journal tous les jours, et il lit beaucoup. Oui, sur la prédominance malheureuse de l'écran, je rappelle Régis Debray, qui a formalisé le passage de la graphosphère, l'écrit, à la vidéosphère, l'image. On est actif intellectuellement avec un livre et passif avec une image. Exemple, la nounou électronique ou télévision. Merci.
Exactement.
Oui. Votre livre ne dit rien, ne développe rien d'autre. On a bien compris en évoquant cette entreprise prométhéenne, enfin, que je décrivais tout à l'heure, que vous intéressez également à ce qui peut sauvegarder et je dirais même nourrir une vie authentique intérieure à travers la lecture.
Alors effectivement, alors je vais citer, là pareil, j'ai trouvé ça depuis que le livre est paru, je crois qu'un des mots de notre temps, de notre civilisation, on en parlait hors antenne avec Richard de Sèze tout à l'heure, c'est une exaltation, une hypertrophie de l'aspect sensible par rapport à l'aspect rationnel. Voilà. C'est les gens qui se posent la question de savoir si quand ils vont à la messe, ça leur fait quelque chose. Le sujet n'est pas celui-là. C'est-à-dire que si Dieu vous fait la grâce, eh bien, effectivement, d'éprouver des consolations à l'occasion de tel ou tel événement religieux, ben, ma foi, c'est une grâce dont il faut profiter. C'est une grâce dont il n'est pas certain qu'elle dure éternellement. Bien. Et le pape, je crois, Léon XIV, a fait sur ce sujet une réflexion tout à fait intéressante le 4 novembre 2025 au Pérou. Donc il a écrit au grand... Donc il est péruvien, il a nationalité péruvienne, bien qu'il soit d'origine américaine, donc c'est un pays qu'il connaît, où il a passé plusieurs décennies. Et donc il écrit une lettre au grand séminaire San Carlos y San Marcello de l'archidiocèse de Trujillo. Et qu'est-ce qu'il écrit à ces braves séminaristes? Je crois que ça vaut pour tout le monde, je le cite. « La piété sans doctrine se mue en une fragile sentimentalité. La doctrine sans prière devient stérile et froide. » Voilà, on retrouve quelque chose qu'on avait, le père Garrigou Lagrange en particulier, avait développé au début du DDO Uno. Voilà. Et je crois qu'en particulier pour ceux qui ont la grâce de la foi, il ne faut pas opposer les deux. C'est-à-dire, il ne faut pas...
il faut nourrir l'une par l'autre.
Voilà. Et alors, c'est ce que dit Garrigou Lagrange. Il dit, voilà, si vous n'êtes que dans la doctrine et s'il n'y a pas la prière, vous allez vous dessécher. Et puis, en revanche, si vous êtes uniquement dans l'émotion sensible, sans que cela repose sur une adhésion de l'intelligence, ben d'abord, vous risquez de vous tromper, parce que nos sens peuvent nous tromper. Et puis, d'autre part, ben vous aurez du mal à durer dans le temps, parce que ces émotions sensibles, l'expérience montre que ce que l'on éprouve est... fugitif, passager. Alors que ce que l'on a compris, on l'a compris pour la vie. Voilà. Une fois que vous savez que 2 et 2 font 4, que vous l'avez compris, que vous l'avez intégré, ben, c'est bon pour la vie.
C'est cela. Alors vous parlez évidemment du manque de goût de la lecture, des obstacles à la lecture. Est-ce que vous pouvez nous entretenir de quelques aspects ?
Les obstacles à la lecture, donc j'en ai noté 5. Le premier, on en a déjà parlé, c'est le manque d'aisance.
Manque d'aisance,
voilà. Si vous avez du mal à lire, ça va être compliqué.
Voilà.
Le deuxième, c'est le manque de goût.
Surtout.
Ça revient à ce que l'on évoquait un petit peu tout à l'heure.
Le savoir est un fruit dont la racine est amère.
Voilà. Donc,
c'est une citation que vous avez.
Voilà, ça c'est mes cours de Sorbonne.
C'est ça.
Quand on n'a pas pris le goût de la lecture jeune, s'y mettre plus âgé, c'est compliqué. Et donc, le conseil que je donne, c'est de dire, bah, commençons par en acquérir le goût. Si on n'a pas le goût de la forme, ayons le goût du fond sur des sujets qui nous intéressent. Le troisième élément que je fais intervenir comme obstacle à la lecture, c'est ce que l'on entend tout le temps, c'est le manque de temps. Le manque de temps, il n'y a qu'une seule... solution, c'est de se fixer une règle de vie. Voilà. Le manque de temps, eh bien là, tout le monde trouve le temps de manger, même les gens qui courent, parce que de toute façon, au bout de 2 jours, si vous n'avez pas mangé, la situation va commencer à se dégrader. Bon, et donc le conseil qui est donné, c'est mettons dans notre règle de vie, voilà, un temps de lecture. Alors ça me permet de rebondir, voilà, sur l'exemple, certains m'ont posé la question, mais pourquoi ce petit format, etc. Voilà, ce petit format, ben, vous le mettez dans votre poche, et dans les transports en commun, plutôt que de regarder l'actualité de la veille qui sera démodée demain, eh bien, on peut lire ça, on peut prendre la résolution dans mes transports en commun. 20 minutes de lecture tous les jours dans les transports en commun. Je peux prendre la résolution, je ne m'endors pas sans avoir lu 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, je donne une citation de Metternich.
Oui, du prince de Metternich. J'ai la mauvaise habitude de ne jamais m'endormir avant d'avoir lu une heure ou une demi-heure.
Voilà, et je complète en disant, voilà, le prince de Metternich, donc il était premier ministre ou l'équivalent pour l'Empire d'Autriche, donc ça n'était pas rien. Il avait une vie personnelle extrêmement animée, puisqu'il a eu 3 femmes, 4 maîtresses, une douzaine d'enfants. Bon, eh ben, il prenait le temps de lire. Donc le manque de temps, la réponse au manque de temps, c'est la règle de vie. Ensuite, l'addiction aux réseaux sociaux, c'est sûr, c'est plus facile et ça coûte moins de regarder une vidéo.
De scroller, comme disent les jeunes.
Voilà, et puis de zapper de l'un à l'autre. Voilà. Moi, le conseil, on l'a évoqué tout à l'heure, voilà. Oui. Après le dîner, plus d'écran. Et puis, aussi,
Problème de concentration.
Oui, alors ça, on voit ça. Bah, d'ailleurs, tous les enseignants le disent. Hein. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, Internet, etc., font que les enfants ont de plus en plus de mal à se concentrer. Voilà, que 10
dans
minutes sur un
monde,
sujet.
L'intelligence artificielle et les algorithmes décident de ce que chacun voit. Vous écrivez, choisir un livre, l'ouvrir et le lire vraiment est un acte de liberté.
Exactement. Et alors, Donc,
il y a une forme d'émancipation.
De libération.
Oui.
Et j'évoque cette question de l'intelligence artificielle, parce que, alors que j'utilise un peu, les gens disent... Alors, vous voyez, je prends une analogie. Aujourd'hui, ça sert à rien de faire du calcul mental, d'apprendre les règles de 3, puisque de toute façon, j'ai une calculette. Ouais. Enfin, il y aura peut-être des situations dans lesquelles on n'aura plus de calculette. On a eu le même type de phénomène sur savoir lire une carte et savoir s'orienter avec l'apparition du GPS. Voilà. Oui. Les gens ne savent plus lire une carte parce que le GPS vous dit tout de suite où il faut aller. Et je pense qu'on a une troisième étape aujourd'hui en disant, donc, ça ne sert à rien de mémoriser, ça ne sert à rien de savoir s'orienter, et aujourd'hui, la dernière étape, l'étape ultime de l'abêtissement généralisé, c'est ça ne sert à rien de réfléchir parce que l'intelligence artificielle va répondre pour moi. Deux réflexions. La première réflexion, c'est l'intelligence artificielle, c'est un modèle probabiliste. C'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence artificielle regarde ce qui est disponible sur les bases Internet, etc. Un exemple, deux exemples. Le premier exemple, c'est si demain, tout le monde commence à écrire que la Terre est plate, quand vous interrogerez l'intelligence artificielle, elle vous répondra que la Terre est plate.
Oui.
Voilà. Un fait concret, nos amis de l'Action familiale et scolaire, il y a quelques mois, ont fait ce sondage. Ils ont interrogé l'intelligence artificielle sur, mais est-ce que la réforme liturgique, le fait de communier dans la main, par exemple, n'aurait pas amoindri la croyance en la présence substantielle du Christ sous les apparences du pain et du vin? Donc ils ont posé plusieurs questions de ce type, etc. Et à chaque fois, l'intelligence artificielle, elle répondait ce que disent les milieux traditionnels. Parce qu'en fait, ces milieux ont tellement produit sur le sujet que l'intelligence, elle ne voit que ça et elle donne comme opinion communément admise les faits que l'on vient d'évoquer.
C'est en ce sens-là où c'est très dangereux.
Voilà. Sous cet aspect, en fait, c'est le grand nombre.
Oui.
Alors, vous pouvez aussi, et certains l'ont compris, sur un sujet donné, vous pouvez saturer l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si vous envoyez une multitude d'informations et de données allant toutes dans le même sens, au bout d'un certain temps, l'intelligence artificielle va prendre ça pour argent comptant, et ça va devenir la vérité révélée. Et dernier point, l'intelligence artificielle, elle ne livre des réflexions, et c'est vrai, elle ne livre des réflexions que si on lui pose les bonnes questions. Et les bonnes questions, eh bien, c'est, je dirais, elles nous sont données par la culture générale, par les connaissances que l'on peut avoir au-delà du point précis. Je crois que...
Vous citez l'IA, justement, Gemini.
Oui.
Gemini nous répond que pour Musk, si l'IA peut fournir des réponses instantanées et accomplir des tâches complexes, il est crucial que les enfants développent les compétences fondamentales qui leur permettent de comprendre, de penser de manière critique et de faire preuve de discernement. L'accent mis sur la lecture par les parents est donc pour lui une responsabilité capitale pour s'assurer que les jeunes générations sont armées pour naviguer dans un monde dominé par l'IA.
Avec un autre élément autour de ça par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, ça a un autre défaut, évidemment, et on l'a observé quand j'ai parlé des règles de 3 et tout, c'est la diminution de l'importance de la mémoire, quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne cherche plus à mémoriser. Alors, je renvoie dans ses mémoires, Jean-Marie Le Pen raconte que quand il était chez les jésuites à Saint-François-Xavier à Vannes, alors c'est l'ordre de grandeur, hein, mais par trimestre, il devait apprendre 200 vers grecs et 300 vers latins, quoi. Donc ça entraîne la mémoire. Et je crois aussi, et là ce sera ma petite note gaulliste de l'émission, à l'importance de la culture générale. Voilà, le général de Gaulle a cette déclaration à laquelle...
Il parlait d'Alexandre.
Derrière les victoires d'Alexandre, donc il s'agit d'Alexandre le Grand, on retrouve toujours Aristote. Voilà, donc Aristote qui fut le précepteur d'Alexandre le Grand et qui lui a donné une culture générale qui l'a incité à réfléchir sur les grands thèmes. Et je suis frappé aujourd'hui comment dans les entreprises, aujourd'hui, un certain nombre de dirigeants sont en train de revenir sur un profil de recrutement de spécialistes techniques Alors que ce soit des techniciens du métier ou que ce soit par exemple des techniciens de la finance, pour donner des postes de responsabilité à des gens qui ont plutôt fait des études littéraires et qui, ayant fait des études littéraires, bénéficient d'une culture générale dont le spécialiste ne dispose pas. Ça, je crois que ça doit vraiment... Enfin, j'observe ça dans les entreprises. Voilà, on préfère à la limite, l'expression est bien connue, une tête bien faite qu'une tête bien pleine.
Alors, précisons que votre livre est complété d'une petite bibliothèque de base. Alors, apologétique, spiritualité, doctrine, philosophie, politique, histoire, éducation famille, crise de l'Église, foi, tradition, liturgie, crise de la société et poésie. Et qu'il y a également une petite bibliothèque jeunesse.
Exactement.
Voilà. Vous avez tenu, justement, à pouvoir vous adresser à la fois aux jeunes, aux adolescents et aux adultes. Et vous leur proposez un parcours de lecture.
Voilà. Après des considérations un petit peu générales, donner les éléments pour pouvoir mettre ça en œuvre de manière très concrète.
Alors, précisons donc que nous avons parlé aujourd'hui du livre de Jean-Pierre Mogent, La lecture en question, édition Via Romana, 9 euros, qu'on peut se produire dans toutes les bonnes librairies, et notamment chez Renaissance Catholique, dont l'adresse...
Donc sur le site de Renaissance Catholique, renaissancecatholique.org, là vous êtes renvoyé vers...
Voilà, avec évidemment le précédent sur l'obéissance, votre propre livre.
Quand la mère se retire.
Quand la mère se retire, et puis un certain nombre de classiques, notamment consacrés au Concile, Vatican II, et aux sept sacrements.
Voilà, pour nos éditions, c'est le livre dont on parle. Et je conclue par une citation d'Horace dans l'Art poétique. « Il a remporté tous les suffrages, celui qui a mêlé l'utile à l'agréable, charmant le lecteur tout en l'instruisant. »
Et je souhaite un bon carême à tous nos auditeurs.
Merci beaucoup.
Venez d'entendre filer des pages dirigées par Benoît Mancheron, diffusées en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 18 février 2026, de 10h à 11h, et réalisées par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.